cœur est un violon. À la recherche de Ginette Neveu.
Marina Schiff, France Musique.
Aujourd'hui, c'est le troisième épisode de notre série sur France Musique autour de la violoniste légendaire Ginette Neveu. Nous fêtons le 100e anniversaire de sa naissance cet été. Précédemment, nous sommes partis à la recherche des figures féminines de l'histoire des grands violonistes. À la fin de notre deuxième épisode, nous sommes arrivés en Pologne avec la musique de Karol Szymanowski. Alors faisons escale à Varsovie aujourd'hui. Imaginez un peu, nous sommes en 1935. C'est le centenaire de la naissance du grand virtuose Henryk Wieniawski. La Pologne veut marquer le coup et décide d'organiser un concours international. C'est le neveu de Wieniawski, Adam, qui préside l'événement. En 1935, Ginette a 15 ans. 4 ans plus tôt, elle avait déjà participé à un concours international à Vienne. Elle arriva en finale et le professeur hongrois Karl Flesch, au jury, fut impressionné par la jeune fille. Il l'invita à venir étudier avec lui à Berlin. À l'annonce de ce nouveau concours à Varsovie, il est question que Ginette y prenne part. Mais sa participation est compromise. La famille n'a pas les moyens de payer l'expédition. Heureusement, Karl Flesch, ayant eu vent de ses difficultés, offre de prendre en charge les frais occasionnés par le concours. Ginette travaille alors d'arrache-pied et monte le programme du concours en 6 semaines.
Thank you.
Sur France Musique, nous écoutions les variations sur un thème de Corelli de Kreisler, interprété par Ginette Neveu au violon, au piano, Gustave Beck. Le 3 mars 1935, l'élite du violon se retrouve à Varsovie. Pendant 10 jours, Varsovie sera la capitale mondiale du violon. La Pologne a déjà organisé avec succès le premier concours international de piano en 1927. C'était la première édition du concours Chopin. Il faut dire que cette fois encore, l'annonce des prix, très bien dotée financièrement, contribue au nombre élevé des candidatures. 160 violonistes s'inscrivent. Au final, 55 candidats de 16 pays seront présents. Et pas moins de 20 membres du jury venant de Pologne, d'Allemagne, du RSS. De ce moment, il nous reste une photo de groupe. Tous les candidats sont assis sur la scène de la Philharmonie de Varsovie. Ils attendent le tirage au sort de leur numéro de passage au premier tour. Les filles sont au premier rang, ensemble. On y devine Ginette, assise au milieu. Elle porte une robe à col marin. Derrière elle, un jeune homme bien sérieux, au crâne légèrement dégarni, un certain David Oistrakh. Au programme du premier tour, pas moins de 3 œuvres de Wieniawski. Une étude caprice, une des 2 polonaises brillantes, et une pièce à choisir parmi Scherzo Tarantelle ou Mazurka. Ensuite, une pièce libre, romantique ou moderne. Ginette choisit bien sûr Tzigane de Maurice Ravel. Et, incontournable pour tout concours, un extrait des sonates et partitas de Bach pour violon seul. Ginette choisit la grande chaconne de la 2e partita en ré mineur. Elle tire le numéro 27. Elle passera donc l'après-midi du 3e jour. Thank you. de Fritz Kreisler, le gravé dans le style de Wilhelm Friedemann Bach, joué par Ginette Neveu au violon et au piano Bruno Zeidler-Winkler. Cela nous laisse imaginer l'intensité émotionnelle avec laquelle Ginette devait jouer la chaconne de Bach. Dès son premier passage, elle fait d'ailleurs forte impression. Le public du concours Wieniawski est enthousiaste. Les gens ne cessent d'applaudir. La sonnette du président n'arrive pas à les faire revenir au calme. La mère de Ginette est confiante. Dès le lendemain, elle écrit à Jules Boucherie, le professeur de Ginette au Conservatoire de Paris. « Sans que le résultat du premier examen soit donné, nous savons que Ginette est admise au second tour avec de très bonnes notes. » Il faut dire que les membres du jury sont même venus la féliciter dans le foyer de la Philharmonie, juste après son passage. Ils n'ont jamais entendu pareille interprétation de la chaconne de Bach depuis Isaïe. Mais la concurrence est rude. Au premier tour, déjà, la maman s'inquiète d'un certain Henri Temianka.
Thank you.
Sur France Musique, du Wieniawski pour ce concours Wieniawski à Varsovie de 1935. Henri Temianka, au violon, joue la polonaise brillante en La majeur, dans un enregistrement contemporain du concours d'ailleurs. Le niveau des candidats est impressionnant, notamment donc ce Henri Temianka, né en Écosse, d'origine polonaise. Temianka est également un disciple du professeur Karl Flesch. Et il a fait un passage de 2 ans au Conservatoire de Paris, chez Jules Boucherie, également le professeur de Ginette Neveu. Mais c'était il y a plus de 10 ans. À Varsovie, Temianka a presque 30 ans. Il a déjà de nombreux engagements. La maman de Ginette est inquiète d'ailleurs, car Temianka se fait mousser dans les journaux par des articles relatant sa carrière. Et il se serait fait recommander au jury par le grand violoniste polonais Bronisław Huberman et par le grand pianiste Josef Hoffmann. Et puis il y a aussi le Yougoslave Jerko Spieler, assistant de Jacques Thibault à l'École normale de Paris et ancien élève de Vaclav Homel, qui est au jury. Il est vrai qu'entre les deux tours, la pression augmente. Les enjeux sont lourds. Des enjeux presque géopolitiques. Chaque pays défend ses intérêts et les membres du jury vont sans doute soutenir leurs candidats nationaux. Et là encore, la mère de Ginette se fait du souci. Il n'y a pas de jury français. Elle supplie alors Jules Boucherie de venir ou de faire envoyer quelqu'un. Il faut que la France se mobilise pour Ginette, qui représente quand même l'école française du violon. Finalement, ce sera Gabriel Bouillon qui viendra, lui-même professeur au Conservatoire de Paris. Nul besoin de préciser que la Pologne, très impliquée dans l'organisation, a misé gros. La délégation polonaise est nombreuse et assez impressionnante. Au deuxième tour, il y a notamment le déjà célèbre Bronisław Gimpel, une jeune femme assez épatante, Gradina Basiewicz, et surtout deux enfants prodiges qui font exploser les records de précocité. Une certaine Hida Händel, qui n'a pas 10 ans, et un garçon de 11 ans, aux yeux bleus, un peu rêveur, Josef Hasid. Thank you. C'était le violon envoûtant de Joseph Hassid que nous entendions dans la capricieuse d'Elgar avec au piano Gérald Moore. Lors de ce concours Wieniawski, la délégation soviétique est très impressionnante. Deux violonistes ont été envoyés après une sélection interne, bien sûr. C'est ainsi que cela fonctionne en URSS, car les concours internationaux sont de sacrées vitrines à l'international, un lieu de diplomatie culturelle, de soft power, comme on dit. En fait, c'est l'occasion de montrer au monde entier ce que l'URSS peut produire. Il s'agit de faire une démonstration de puissance. Les deux candidats envoyés viennent d'Odessa. Ils sont issus de la classe de Piotr Stoliarski, qui a déjà formé le grand Nathan Milstein. Il s'agit de David Oistrakh, 27 ans, et du tout jeune Boris Goldstein, 13 ans. Ils sont en grande forme. Ils sont là pour gagner. En finale, ce sera un des deux concertos de Wieniawski. Ginette a choisi le deuxième concerto en ré mineur. Le premier concerto est également magnifique et absolument redoutable.
Thank you.
Sur France Musique, la fin du premier mouvement du premier concerto de Wieniawski par le violoniste Boris Goldstein. Lors du concours Wieniawski 1935, Boris Goldstein est déjà un fabuleux violoniste. Un an auparavant, il avait réussi à faire impression sur Yasha Heifetz, alors en tournée à Moscou. Il avait fait impression en étant le seul à réussir à jouer ses gammes dans toutes les tonalités devant le grand Yasha, c'est dire. Après les épreuves du concours, l'attente des candidats est terrible. La tension est à son comble. Pour certains, le deuxième tour s'est mal passé. Par exemple, Joseph Hassid a eu un trou de mémoire. Tout espoir de prix s'est envolé. Par contre, entre les autres prétendants, la concurrence est réelle. Qui de Gimpel, Temianka ou Oistrakh va l'emporter ? Oistrakh est attendu, mais il y a aussi la petite française qui a fait si forte impression avec sa chaconne et son tzigane. Au bout de longues délibérations, le jury vient annoncer les résultats. On commence par les diplômes d'honneur, puis on remonte. Comme prévu, Joseph Hassid n'obtient qu'une mention spéciale. Ida Haendel obtient un 7e prix. Et puis, 4e prix Boris Goldstein, 3e prix Henri Temianka. Et là, le suspense est à son comble. Le 2e prix sera pour David Oistrakh et le 1er prix pour Ginette Neveu.
Mon cœur est un violon.
Marina Schiff, France Musique.
Quelle victoire! Tout le monde applaudit. Un triomphe et une sacrée surprise, car le monde ne connaissait pas encore Ginette Neveu, alors que David Oistrakh était déjà connu. Alors oui, certains diront que c'est à cause de l'antisémitisme de plusieurs membres du jury que le prix n'ira pas au candidat soviétique. Mais Oistrakh lui-même, très fair-play, exprimera dans une lettre à sa femme Tamara sa profonde admiration pour la jeune prodige française. Comme de tradition, on immortalise ce palmarès par une photo. La photo est belle. Les lauréats sont debout, ils postent avec des membres du jury. Ginette Neveu est au milieu, à nouveau, cette fois dans une jolie robe blanche. Elle est si grande par rapport à la toute jeune Ida Haendel, si petite, elle aussi en ballerine avec des chaussettes hautes. Mode de l'époque oblige. À côté, Boris Goldstein regarde droit dans la caméra avec un sourire mutin. Au bout de la rangée de droite, David Oistrakh se tient, grand et élancé, en costume avec nœud de papillon. De l'autre côté, Joseph Hassid, dans un costume marin, les yeux perdus au loin.
Thank you.
La mélodie de Tchaïkovski, extraite d'un cycle intitulé « Souvenir d'un lieu cher » par Joseph Hasid au violon. Après ce fameux 16 mars 1935, dernier jour du concours, que deviennent ces violonistes? Pas de temps à perdre pour les soviétiques. Ils préparent le prochain concours international. Ce sera d'ailleurs à Bruxelles en 1937, la première édition du concours Isaïe, le futur concours de la reine Elisabeth. Cette fois-ci, 4 candidats soviétiques sont sélectionnés. Ils prennent les 4 premières places. Goldstein à nouveau 4e prix. Et cette fois-ci, Oistrakh triomphe. Il est dans une forme olympique.
Thank you.
Sur France Musique, le Caprice en forme de valse de Saint-Saëns, arrangé par Eugène Isaïe, au violon David Oistrakh, au piano Vladimir Yampolsky. Au moment du concours Isaïe à Bruxelles en 1937, donc 2 ans après son deuxième prix au concours Wieniawski, Oistrakh est un jeune homme fringant, d'une virtuosité exceptionnelle. C'est vrai que quand on pense à lui, c'est souvent l'image de l'artiste dans sa maturité qui nous apparaît. Un violoniste au physique imposant, inimitable, avec ses grosses joues et ses doigts énormes de véritables paluches. Un immense musicien avec sa sonorité veloutée. On aurait tendance à oublier qu'il excelle aussi dans le répertoire virtuose. Après son sacre à Bruxelles en 1937, le roi David, comme on le surnomme, est lancé. Un premier prix dans un tel concours international est un véritable sésame en URSS. C'est d'ailleurs avec le pianiste Lev Oborin, premier prix au concours Chopin à Varsovie 10 ans plus tôt, qu'il forme un duo. Pour Boris Goldstein, ce sera plus compliqué. N'ayant pas les faveurs du régime, il sera bloqué. Il n'aura pas le droit d'aller jouer à l'étranger et sera interdit d'enregistrement. Mais cela, c'est une autre histoire. Revenons à 1935 à Varsovie. Les nuages s'accumulent alors au-dessus de l'Europe. Plusieurs des lauréats partiront en exil en Amérique peu de temps après le concours. Henri Temianka à Pittsburgh, Bronislav Gimpel à Los Angeles ou Ljerko Spiller en Argentine. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un prochain volet de notre série. Ida Haendel et Josef Hasid iront à Londres étudier sur l'invitation du professeur Karl Flesch, qui après Berlin et la Belgique s'est installé dans la capitale britannique. C'est en Belgique, à Spa, que Karl Flesch donne un cours d'été en 1937. On y retrouve nos enfants prodiges, Ida Haendel, Josef Hasid, Ginette Neveu et même un certain Ivry Gitlis. Une sacrée bande. Ida et Ginette deviendront d'ailleurs amies, une drôle de paire. Ida, minuscule, frêle et un peu timide à l'époque, et Ginette, grande, forte et téméraire. À Londres, la carrière de Hasid sera lancée. C'est le célèbre manager Harold Holt qui s'occupe de lui. Hasid impressionnera tous les grands violonistes de passage dans la capitale, notamment Fritz Kreisler, qui prêtera au jeune violoniste son violon de Jean-Baptiste Vuillaume. Mais Hasid aura un destin tragique. Diagnostiqué pour schizophrénie, il sera interné en 1942, puis définitivement en 1943, jusqu'à sa mort en 1950. Il avait 27 ans. Thank you. La mélodie hébraïque de Akron par le violon intense de Joseph Hassid. Gérald Moore était au piano. Quelle intensité dans ce vibrato, on dirait qu'il a son âme au bout des doigts. Heureusement qu'il nous reste ces quelques traces discographiques de ce météore, un génie du violon. Kreisler aurait dit « Pour produire un Heifetz, il faut 100 ans. Pour produire un Hassid, 200 ans. » La phrase est démentie par les biographes d'Heifetz, mais bon, elle nous donne la mesure du talent de Joseph Hassid. Heureusement, la trajectoire de l'autre prodige, Ida Haendel, est bien différente. Ida Haendel a aujourd'hui plus de 95 ans. Difficile de connaître son âge exact. Les violonistes font souvent preuve de coquetterie avec leur âge, surtout quand ils ont été lancés comme enfants prodiges. Mais elle a eu une carrière extraordinaire. Elle a joué sous la direction de Shelly Bidak. Elle a énormément enregistré. J'ai eu la chance de la rencontrer en 2001 au Festival de Verbier. Elle avait déjà 80 ans. Une femme au charisme renversant. Je m'en souviens comme si c'était hier. Haute comme trois pommes, elle arriva à la masterclass avec son petit chien. Et nous, les étudiants, nous étions tous terriblement intimidés. Elle monta sur scène pour le concert en robe à paillettes vertes. Elle joua la troisième sonate d'Enesco, par cœur, avec un panache, une justesse de ton et une classe inoubliables. Elle laissa le public et les violonistes dans la salle avec la mâchoire par terre. Et il y avait là du beau monde. Vadim Repin, Dimitri Sitkovetsky et j'en passe. Écoutons-la maintenant dans la première rhapsodie de Bartok, au piano Vladimir Ashkenazy.
Thank you.
Ida Haendel au violon, Vladimir Ashkenazy au piano, dans le moderato de la Rhapsodie numéro 1 de Béla Bartók. Mais revenons à notre grande gagnante du concours Wieniawski 1935, notre Ginette Neveu nationale. Dès le lendemain de sa victoire à Varsovie, les concerts de lauréats s'enchaînent. Elle y joue bien sûr Tzigane de Ravel, qui devient sa pièce signature. Pour le concours, on lui a prêté un Stradivarius. Or, elle est retenue en Pologne pour ses concerts. Et elle a besoin de l'instrument maintenant que sa carrière débute. Elle demande donc au luthier Marcel Vatelot, le père d'Étienne, de bien vouloir prolonger l'assurance du violon pour 3 mois. Elle lui écrit dans sa lettre « Je crains que cela ne vous contrarie, mais si j'ai la chance de gagner de l'argent, je vous achèterai un beau violon. » Elle joue alors dans toute la Pologne. L'Allemagne est le premier pays à émettre une invitation. Le jour même où elle arrive à Hambourg, elle joue le concerto de Brahms sous la direction d'Eugène Jochum.
Thank you.
Sur France Musique, nous écoutions le deuxième mouvement du concerto de Brahms pour violon et orchestre, Ginette Neveu, magnifique, accompagnée par l'orchestre Philharmonia, à la baguette Isaï Dobravin. Après cette victoire retentissante au concours Wieniawski, la carrière de Ginette Neveu est lancée. La presse française exulte, mais souligne que Ginette a étudié avec Georges Enesco et Carl Flesch. Peut-on alors vraiment parler de victoire de l'école du violon français ? Ce sera la question que nous nous poserons dans le prochain numéro. Merci à toute l'équipe de l'émission, Françoise Cordet, Martine Moni et José Bernays. Vous pouvez réécouter cet épisode ou le podcaster sur francemusique.fr. À dimanche prochain à 17h.
Mon cœur est un violon.